Alors bonjour, bienvenue à cette dernière séance, ce dernier panel de la journée.
J'ai vu que le réseau était indisponible.
Le panel s'intitule « Laïcité, régime républicain et régime républicain ». Je m'appelle Lydie Latac, je suis une fière postdoctorante. En fait, j'ai fini mon postdoctorat à la CRIEC et j'ai été embauchée récemment à l'Université Ryerson à Toronto. J'ai le plaisir de présider ce panel qui réunit trois panélistes. Donc, premièrement, M. Daniel Baril, anthropologue, rédacteur à l'hebdomadaire Forum de l'Université de Montréal et co-rédacteur de la Déclaration pour un Québec laïque et pluraliste publiée par les intellectuels pour la laïcité. Deuxième panéliste est M. Marc Chevrier, qui est professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Et troisième panéliste, M. Daniel Turp, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, je vais donner tout de suite la parole à M. Daniel Baril, dont la présentation s'intitule « La laïcité comme caractéristique distinctive du Québec ». Vous avez 20 minutes, M. Baril.
Merci. Ma communication va être celle d'un militant laïque, militant qui prétend défendre des valeurs de gauche et qui se distingue de la gauche compassionnelle. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la droite n'est pas monolithique, la gauche non plus. En lisant récemment le dernier volume de Gérard Bouchard, qui s'intitule « L'interculturalisme, point de vue québécois », une chose m'a frappé dans la genèse qu'il fait de la notion d'interculturalisme au Québec. Dans aucun des textes de la période qui va des années 70 jusqu'au rapport Bouchard-Taylor, il semble n'être question de laïcité ou d'articulation de l'interculturalisme en lien avec la laïcité. Pourtant, dans les années... Ça jusqu'au rapport Bouchard-Taylor, donc, qui est sorti en 2008. Dans les années 90, le Québec n'était ni plus ni moins laïque qu'en 2008. La laïcité est en partie un héritage de la Révolution tranquille et le rapport Bouchard-Taylor nous rappelle d'ailleurs, un élément intéressant, que la séparation des Églises et de l'État au Québec remonte au traité de Paris 1663 et à l'acte de Québec 1763 et à l'acte de Québec 1774. Le même élément est repris dans un avis du Conseil du statut de la femme, affirmé la laïcité. Dans ces deux traités et actes, la couronne britannique renonce à faire de l'anglicanisme la religion de la nouvelle colonie, contrairement à ce qui a cours en Angleterre et dans ses autres colonies. Donc, une renonciation afin de permettre aux catholiques la liberté de religion. La laïcité, plus ou moins formelle selon ses différentes composantes, qui est toujours celle qui a cours au Québec, donc elle est toujours informelle, était déjà là dans les années 80-90, sans que les penseurs de l'interculturalisme n'y aient porté attention. Elle est devenue pourtant un élément central du rapport Bouchard-Taylor, et dans le dernier ouvrage de Bouchard de l'année dernière, elle semble être un élément inséparable de l'interculturalisme et de sa mise en œuvre. Qu'est-ce qui a changé pour que cette notion devienne tout à coup un élément dont il faille absolument tenir compte dans la réflexion sur l'interculturalisme? L'immigration des années 90 y est sûrement pour quelque chose. De nouveaux arrivants avec une religiosité forte ont entraîné l'épisode qu'on a connu des accommodements raisonnables, ce qui a fait prendre conscience à plusieurs de la sécularisation de la société et d'une laïcité réelle ou souhaitée, peut-être même imaginaire, de l'État québécois. Les demandes de commandement en milieu scolaire, comme le port du voile islamique du kirpan, des sikhs, sont survenues au moment même où prenait place l'une des dernières phases de la laïcisation du système scolaire, ce qui semblait donc aller à contre-courant de cette laïcisation qui était acceptée par l'ensemble de la population. Du jour au lendemain, on entendait fusée de partout « Le Québec est laïque » chaque fois que les médias nous rapportaient un épisode d'accommodement raisonnable, et même des faiseurs d'opinion qui s'étaient toujours opposés à la laïcisation scolaire, tout à coup, s'affichaient comme des défenseurs de la laïcité chaque fois qu'un hijab se pointait sur la rue. Revirement soudain qui a valu à plusieurs d'entre eux des accusés, enfin d'être qualifiés, à juste titre à mon sens, de faux laïcs parce qu'on préconisait une laïcité à géométrie variable. L'expression d'une religiosité forte de la part de certains groupes religieux minoritaires, dans lesquels on peut ranger des groupes chrétiens, a aussi éveillé le passé catholique qui sommeillait dans l'identitaire québécois. L'association entre ces deux éléments, c'est-à-dire laïcité et identitaire catholique, crée une confusion qui n'est pas sans danger, sur laquelle je reviendrai plus loin. La période des accommodements raisonnables a donné lieu à des batailles juridiques qui ont eu aussi un impact sur l'identitaire québécois, sur l'identité québécoise. Certains jugements des tribunaux québécois, comme celui sur le Kirpan, celui sur la Souka à Outremont, ont été renversés par la Cour suprême, ce qui a attisé le sentiment d'aliénation juridique et culturelle d'une bonne part de la population face au multiculturalisme de la Constitution canadienne. Cette dissonance juridique, j'emploie ici l'expression de Sébastien Grandmont, doyen de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, renforçait sans doute le désir d'exprimer formellement la laïcité de l'État québécois afin de se distancier encore davantage du multiculturalisme canadien. Dans une analyse comparative des jugements des tribunaux québécois et canadiens sur les accommodements religieux, c'est-à-dire analyse des jugements des tribunaux québécois et de la Cour suprême du Canada sur les accommodements religieux, Grandmont arrive à la conclusion que s'il y a dissonance entre ces jugements, ce n'est pas dû à une divergence de vue entre les tribunaux québécois et canadiens concernant l'obligation d'accommodement, mais plutôt à la notion même de religion qui diffère selon la culture catholique et protestante. Grandmont écrit « Les confessions protestantes mettent l'accent sur la conscience individuelle et sur l'établissement d'une relation directe entre le croyant et l'être divin. Dans une telle conception, le religieux n'est pas synonyme d'obligation, de conformité au dogme, mais plutôt de la quête spirituelle de l'individu. Donc, les éléments qui relèvent de cette quête mérite la même protection que les obligations institutionnelles. Je reprends Grandmont. La religion catholique met l'accent sur les règles ou les préceptes dont l'observance s'impose aux fidèles et dont la transgression est sanctionnée ici-bas ou dans l'au-delà. Dans ce contexte, l'obligation de commandement n'aurait pour seul but que de protéger le croyant contre des obligations contradictoires. La décision des juges québécois semble donc projeter cette image de la religion catholique sur les autres religions. Donc, de ce point de vue, les pratiques qui ne se fondent pas sur une obligation religieuse ne mériteraient donc pas la même protection que les obligations institutionnelles. La conclusion de Grandmont, les jugements de la Cour suprême ont abouti à la mise à l'écart d'une conception spécifiquement québécoise de l'accommodement religieux, que l'on peut expliquer par une vision différente du phénomène religieux lui-même, et possiblement par des valeurs politiques en décalage et à l'imposition de la conception canadienne majoritaire basée sur une interprétation conventionnelle du multiculturalisme. Ce qui suscite chez moi la réflexion suivante, si la séparation des Églises et de l'État est plus une réalité québécoise à cause de notre histoire et du tissu social catholique qui, lui, est moins propice aux accommodements individuels que le protestantisme, et si le multiculturalisme s'avère être un frein à la laïcité de l'État, mieux vaut donc, si l'on veut défendre et promouvoir la laïcité, ne pas formaliser outre mesure notre soi-disant interculturalisme, qui, à mes yeux, est le frère siamois du multiculturalisme. La pratique d'accommodement religieux, avec laquelle la plupart des concepteurs de l'interculturalisme sont en accord, est en effet au cœur même du multiculturalisme. Il y avait bien sûr beaucoup de confusion dans l'affirmation populaire « le Québec est laïque » qui fusait de partout face aux divulgation d'un commandement religieux, confusion notamment entre État laïque et société sécularisée. Une société sécularisée ne l'est jamais complètement. Subsiste toujours une tradition religieuse, celle de la majorité, dans les us et coutumes de cette société. Alors, ceux qui confondent État et société ont donc en tête le modèle suivant de laïcité. Un État qui n'a pas de religion officielle, mais qui conserve des liens privilégiés avec la religion de la majorité au nom de l'histoire et du patrimoine. Paradoxe, ou plutôt même instrumentalisation de la laïcité, ceci n'est pas que le lot de gens qui n'auraient pas suffisamment réfléchi à la question. Le fait est particulièrement observable au sein de la droite nationaliste, ou chez les nationalistes conservateurs, tant au Québec qu'en France. Dans son volume « La laïcité falsifiée », Jean Beaubéreau reproche à la gauche, en fait, moi, la gauche ici que j'appellerais la gauche compassionnelle, qui refuse de critiquer les minorités au nom de l'intégration, et comme le mentionnait Rachad Antonius tout à l'heure, qui ne voit pas dans certaines pratiques une logique de domination dans ces pratiques chez les groupes minoritaires. Alors, Beaubéreau donc reproche à la gauche d'avoir abandonné la laïcité au profit d'une instrumentalisation de cette laïcité par la droite. Il écrit « La nouvelle laïcité, l'expression est tirée d'un rapport d'un ex-ministre François Baroin de l'UMP qui voulait ravir au Front national l'arme de la laïcité et qui l'oppose, en fait, une laïcité identitaire. Il l'oppose à la protection des droits fondamentaux de tous. Donc, ce qu'écrit Beaubéreau, la nouvelle laïcité prospère grâce à la confusion entre les mots laïcité et sécularisation. Donc, autrement dit, entre État et société. Marine Le Pen, je poursuis avec Beaubéreau, et la droite dure en joue continuellement tout en plaçant le catholicisme dans l'identitaire, ce qui permet d'extraire cette religion des obligations sécularisantes demandées sous couvert de laïcité à des juifs et à des musulmans. Ceci s'observe également au Québec. J'ai retenu ici des écrits de Mathieu Bock-Côté, qui se réclame lui-même du nationalisme conservateur, donc c'est pas moi qui le dis, tout en se défendant d'être nostalgique des curés, c'est aussi son expression. Il écrit... Le catholicisme se présente non plus comme croyance religieuse, mais comme patrimoine culturel. Ainsi, ceux qui défendent la croix du drapeau ne confessent pas leur amour du petit Jésus. Ils rappellent seulement que le catholicisme, chez nous, n'est pas une religion parmi d'autres. Il nous a dit que ce n'était pas une croyance religieuse, mais là, il nous dit que c'est une religion, mais pas comme les autres. Bon, en fait. Donc, n'est pas une religion comme les autres. Ces symboles ont une portée identitaire. Je suppose que les symboles des autres religions aussi. L'objectif, selon Mathieu Bock-Côté, réconcilier les grandes sources de notre identité, réconcilier le Québec moderne et notamment son indispensable laïcité avec le Québec de nos ancêtres qui allait à l'Église. Catholique, point d'interrogation, nous l'étions, nous le sommes moins. Laïque, point d'interrogation, nous le sommes, mais nous ne le sommes pas que cela. Êtes-vous catho-laïque? Moi, je le suis devenu. Alors, la laïcité n'a pourtant rien à voir avec le fait que le peuple aille ou non à la messe. Elle a à voir avec le fait que l'État gère la chose publique de façon indépendante des croyances religieuses. Le catholicisme est ici réduit à un élément culturel identitaire dénué de tout contenu religieux. Mais si on enlève au catholicisme sa foi, ses croyances, ses pratiques, sa morale, qu'est-ce qui reste pour meubler l'identitaire? Il ne reste que l'étiquette que certains choisissent de conserver sur leur module neurologique identitaire. Et ce qui est sans doute un révélateur de la force de l'affiliation clanique chez l'être humain, mais on ne peut justifier des accros majeurs à la laïcité d'un État moderne au nom d'un tel identitaire totémique, pour employer un langage anthropologique. Être catho-laïque, c'est défendre une conception communautarienne et non pas républicaine de la laïcité. L'analyse n'est pas faite en fonction d'une distinction entre société et État, mais selon un axe transversal qui aplanit les distinctions entre les deux. Dans un autre texte au titre révélateur, « Derrière la laïcité et la nation », Bock-Côté écrit « Plus que la seule laïcité, il faut opposer au multiculturalisme une certaine idée de la communauté politique qui ne renie pas cette dimension historique existentielle. » Le relativisme identitaire, demandant à une société de renier toutes ses marques distinctives pour mieux s'ouvrir à la diversité, est symptomatique d'une mauvaise conscience inquiétante. La majorité a des droits. La société québécoise ne doit plus avoir honte d'elle-même. Derrière la laïcité, on devra finir par retrouver la nation. Bon, dans certains textes, nation pourrait être synonyme d'État. Mais pourquoi ne pas utiliser ce dernier terme? Dans cet extrait, nation se confond plutôt avec société. Dans ce sens, derrière la laïcité, ce n'est ni la nation, ni la société. La nation mexicaine est catholique et l'État mexicain est laïque. La culture française est imprégnée de culture catholique, peut-être de façon plus forte que la culture québécoise. Pourtant, l'État est laïque. Alors, derrière la laïcité, ce sont les droits humains et non pas la nation ou la société. Cette vision est porteuse, à mon sens, de discrimination par privilège concédé à une religion, ce que la laïcité cherche justement à éviter. Donc, paradoxe ou contradiction. L'idéologie confuse, porteur d'un racisme larvé, est très répandue au sein de la population. J'ai publié récemment sur un blog de médias un texte critique à propos du Bureau sur la liberté de religion récemment créé par le gouvernement Harper. J'ai souligné que ce bureau allait à l'encontre du principe de... Enfin, le bureau a été créé pour guider les politiques internationales du Canada. Alors, je soulignais dans ce texte que il y avait là un accroc à la laïcité de l'État. Enfin, ça allait à l'encontre des principes de la laïcité de l'État. Donc, à contresens du débat qui se fait actuellement au Québec. On a là une autre illustration de ce qui nous distingue du Canada et des voies divergentes empruntées par les deux gouvernements. Dans ce texte, des militants connus pour pourfendre le multiculturalisme, les accommodements religieux et surtout l'islamisme, ont pris la défense du bureau de Harper, n'y ont pas vu un accroc à la laïcité, mais plutôt un outil potentiel pour protéger des chrétiens menacés dans des pays musulmans. Alors, c'est une position qui révèle que ce qui est souhaité n'est pas vraiment la laïcité de l'État, mais la protection de la culture religieuse identitaire. S'il faut protéger les droits des chrétiens, il faut protéger les droits de tous les croyants, en fait, de tous les citoyens. En ce sens, on n'a pas besoin d'un bureau sur la liberté de religion, mais d'un bureau sur les droits civiques. Est-ce que le bureau en question va intervenir face aux blogueurs athées au Pakistan qui sont menacés de mort de lynchage en public? J'en doute. Cette position, qui est une position de droite, a été alimentée et renforcée par la malheureuse notion, en fait plutôt la malheureuse motion, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2008 à l'effet de maintenir le crucifix à l'Assemblée nationale. Cet objet de culte est subitement devenu un objet culturel, historique, patrimonial, donc tout sauf religieux. Ce crucifix n'est pas un crucifix. Rappelons qu'il a été placé là par Duplessis en 1926 pour marquer l'alliance entre le gouvernement, entre l'État et l'Église catholique. Donc, il représente le symbole même de la non-laïcité de l'État. La motion révèle une méconnaissance profonde de ce qu'est la laïcité. En fait, retirer le crucifix n'a pas pour but de nier que le catholicisme fasse partie de la culture québécoise, de l'histoire du Québec, mais a pour but de signifier que les décisions prises par l'État ne le sont pas en fonction de croyances religieuses, mais plutôt en fonction de valeurs humanistes universelles. Le peuple faut bien être catholique et défendre son patrimoine religieux, mais l'État n'est pas religieux. La motion a été ravivée même par la chef du Parti québécois, Pauline Marois, lors de la campagne électorale dans sa déclaration de Trois-Rivières, où elle disait que ça prêtait à adopter une charte qui allait interdire les signes religieux aux fonctionnaires, mais qu'on allait maintenir le crucifix. Donc, c'est un très mauvais message lancé aux minorités religieuses. Si, au nom de la laïcité, on veut empêcher le port de signes religieux par les employés de l'État, ce avec quoi je suis d'accord, mais à plus forte raison, il faut que l'État s'interdise lui-même d'afficher des symboles religieux. Deux minutes, on va terminer dans le temps. La question du patrimoine, à mon sens, là, est quelque chose à clarifier de la part des universitaires, parce que ceux qui ont défendu cette vision des choses ne nous ont jamais dit en quoi le crucifix était patrimonial et quel type de signe patrimonial pouvait être acceptable ou non. Donc, il y a là une réflexion à faire, une contribution à apporter de la part des universitaires. La laïcité patrimoniale alliée au nationalisme identitaire comporte un risque de dérive. Actuellement, cette dérive est à l'état de risque, mais elle semble assez réelle en France, où, je reprends Beaubéreau, nous dit que la nouvelle laïcité identitaire de la droite s'est maintenant imposé de manière dominante dans la culture de masse. Pour éviter cette dérive, le rapport Bouchard-Taylor propose, en prenant appui sur l'interculturalisme, le modèle de laïcité ouverte. Bien que la laïcité ne soit pas en soi une constituante de l'interculturalisme conduit à la laïcité ouverte, selon ce que développe Bouchard dans son dernier volume. Mais à l'encontre de Bouchard, le Conseil du statut de la femme soutient, pour sa part, que que la laïcité ouverte, c'est du multiculturalisme et que l'interculturalisme devrait conduire à la laïcité républicaine. Donc, autre point à clarifier de la part des universitaires. Mais si la laïcité ouverte conduit aux accommodements religieux, difficile de ne pas y voir un apparentement génétique avec le multiculturalisme qui commande des accommodements religieux. À mon avis, la position du Conseil du statut de la femme est mieux articulée. Malgré les risques de dérive, l'accent mis sur la laïcité dans l'ensemble canadien est une spécificité québécoise qui demande à être protégée parce qu'elle est un gage d'indépendance de l'État face aux religions, parce qu'elle assure la liberté de conscience et l'égalité des religions. Fruit de l'histoire, comme on l'a vu, de la culture, même catholique, et du droit québécois, elle gagne à être définie comme une caractéristique de l'État, donc d'être formalisée dans sa forme républicaine, c'est-à-dire une caractéristique de la res publica, plutôt que dans sa forme communautarienne, qui est la laïcité ouverte. Il faut surtout voir à formaliser dans une loi fondamentale, et je passe le flambeau là-dessus prochainement à Daniel Turf, parce que tout principe qui n'est pas protégé finit par s'éroder, une érosion qui est manifeste avec la pratique des accommodements religieux et qui accroît les distinctions particularistes et les clivages entre les minorités. Merci.
Merci beaucoup.